Nous avons hier après-midi essayé de définir ce que c'est, ce qu'on appelle en théologie les deux états, état d'humiliation où Christ se rend solidaire avec nous dans notre humanité et où Christ porte notre condamnation, il prend sur lui solidairement notre condamnation, état d'exaltation dont nous parlerons ce matin, où il rentre lui-même en premier dans l'état de gloire qui est le sien aujourd'hui et aussi nous entraîne solidairement avec lui dans cet état de gloire. Hier soir, nous avons dit quelques mots un peu plus en détail sur l'état d'humiliation, sur son incarnation, sur le service qui était le sien durant son ministère, et puis aussi sur surtout la mort qui est le point le plus bas, si on peut dire ça comme ça, de l'humiliation. Et en même temps, le rapport de ces étapes avec notre vie, pour certaines choses, et puis de façon plus générale, envers la mission chrétienne. Alors, ce matin, trois étapes, un petit peu condensées, de l'exaltation, la résurrection d'abord, la cession du Fils à la droite du Père, deuxième étape, et puis la troisième étape, la manifestation en gloire du Seigneur pour devant tout le monde, de façon globale, universelle et définitive. Alors, je vais peut-être donner un petit peu plus d'emphase à la première partie sur la résurrection, et puis un petit peu moins peut-être sur les deux étapes suivantes, pas parce qu'elles ne sont pas importantes, mais parce qu'il fallait bien faire un choix. Donc voilà, je fais ce choix-là, pour ne pas être trop long, surtout. Alors, la résurrection, venons-y. Alors, une des choses remarquables concernant la résurrection, c'est que, si je voulais vous provoquer, je dirais, la Bible n'en parle pas. Alors, normalement, là, vous êtes censé réagir, et vous êtes censé me dire, mais non, quand même, mais qu'est-ce que tu dis là? C'est pas vrai. Bien sûr que la Bible nous en parle. Alors, il faut que je m'explique. En fait, le mot résurrection, qu'on a l'habitude d'utiliser en français pour parler de cette revivification du Seigneur, est un terme qui ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Et si vous avez certaines traductions de la Bible, par exemple, je pense à la NBS, la Nouvelle Bible Second, à ne pas confondre avec la Second 21, lorsque vous la lisez, vous ne trouverez pas le mot résurrection. Ça ne se trouve pas. Alors, c'est sans doute surprenant. Alors, nous qui avons tellement l'habitude d'employer ce mot, le fait qu'il ne se trouve pas dans certaines traductions de la Bible est surprenant. Mais ça s'explique. C'est tout simplement parce que le grec n'a pas de mot pour parler de résurrection. Ressusciter est un concept qui tout simplement n'existe pas dans le monde grec. Donc ils n'ont pas de mots pour le dire. Ils emploient d'autres mots pour le dire. Alors le sens est là quand même, rassurez-vous. Je ne suis pas en train de... J'espère que je ne vous déstabilise pas trop en disant ça. Mais il se trouve que c'est effectivement une petite difficulté. Ce n'est pas bien important, mais c'est une petite difficulté. Alors, quand le grec parle de ressusciter, quel mot emploie-t-il? De quoi parle-t-il si ce terme n'existe pas? Eh bien, par exemple, il y a essentiellement deux verbes qui sont employés. Les deux verbes sont très courants dans le vocabulaire grec. On trouve dans le Nouveau Testament des centaines de fois cette racine-là sous des formes différentes. Le premier terme qui est employé, le premier verbe avec les déclinaisons nominales, sont « se lever » ou « se dresser ». Par exemple, vous avez ça dans Marc 8, verset 31. Jésus lui-même annonce qu'il doit être mis à mort et ressuscité trois jours après. Et si vous avez la curiosité de regarder la Nouvelle Bible Second, ben, vous voyez que le mot « ressuscité » ne se trouve pas dans le texte. Il est dit, dans cette traduction-là, qu'il se relève trois jours après. Mais il s'agit bien d'une résurrection, mais le mot lui-même, le mot technique, n'existe pas en grec. Alors, si vous voulez un autre exemple de l'usage de ce mot, ben, toujours chez Marc, pour rester dans le même auteur, Marc 10, verset 50, on nous dit « L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus ». Eh bien, c'est le même verbe, « se lever d'un bond », c'est le même verbe que « ressusciter », qui est utilisé un peu plus tôt, au chapitre 8, pour parler de la résurrection. Le deuxième verbe qui est utilisé, et qui est traduit en français par « ressusciter », mais qui en grec est un verbe, encore une fois, usuel et qui parle d'autre chose, c'est « se réveiller ». On trouve ça dans, encore en Corinthiens 15, ce chapitre absolument incontournable lorsqu'on veut parler de résurrection. Au verset 4, Paul dit, parlant de l'évangile qu'il professe, dont il témoigne, il dit, parlant de Jésus, donc, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alors pareil, le mot français ressuscité est un mot technique. Le grec dit simplement, il s'est réveillé le troisième jour. Donc il n'y a pas le sens technique de la résurrection comme on le dit en français. Alors le même mot se trouve, juste pour donner un exemple autre, dans Matthieu 8, verset 25. Vous connaissez tous l'histoire de Jésus qui est dans la barque pendant une tempête avec les disciples. On nous dit, les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant Seigneur, voilà. Ailleurs, c'est ce même verbe qui est traduit par ressuscité. Les deux termes sont plus ou moins synonymes. On peut les traduire tous les deux par ressuscité. Ça ne change pas grand-chose. Il n'y a pas de nuance particulière selon qu'on emploie l'un ou l'autre. Certains auteurs préfèrent l'un, d'autres l'autre, mais ça n'a pas grande importance. Et c'est pour cela que parfois, on rajoute, quand on parle de la résurrection, on rajoute un complément. Les auteurs disent souvent ressusciter d'entre les morts, ou se réveiller d'entre les morts, ou se dresser d'entre les morts, pour bien dire, il s'agit là de quelque chose de particulier. Ce n'est pas juste le fait de se dresser ou de se réveiller, c'est d'entre les morts. Donc c'est vraiment une nouvelle vie d'entre les morts. Alors, parfois d'ailleurs, on trouve les deux. Dans Éphésiens 5, verset 14, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Donc c'est ces deux verbes-là qui sont traduits par ressusciter de façon plus courante. Dans nos traductions second, habituelles, et puis d'autres encore, hein, Tob, etc., traduit généralement par ressuscité. Alors, que savons-nous de la résurrection? Bon, ceci étant dit, juste pour la question du vocabulaire. Bon, on sait un tas de choses quand même, hein. On sait quel jour c'était. C'était le jour qui suit le sabbat, Matthieu 28, verset 1. Le premier jour de la semaine, les femmes se rendent au tombeau, donc on sait, voilà, c'était ce jour-là. On sait que le tombeau était vide, c'était un élément important pour réaliser que bah oui, le corps aurait dû être là, devant, dans ce tombeau scellé, mais il n'est plus là. Donc il s'est vraiment passé quelque chose. On sait aussi que Jésus est apparu, parfois à des personnes seules, parfois à un groupe de personnes, et Paul nous précise, dans 1 Corinthiens 15 au verset 6, que même il est arrivé qu'il soit apparu à un grand nombre de personnes à la fois. Alors je lis verset 6. Il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés, précise Paul. Donc c'est vraiment un événement qui a été attesté et très largement attesté par des témoins. On sait aussi que cette résurrection est due à une intervention divine. Jésus lui-même, quand il parle de sa résurrection de façon imagée dans Jean 2, verset 19, de le temple qui sera reconstruit, et il parle du temple de son corps, il dit, et 3 jours, en 3 jours, je le relèverai, parlant de son corps. Donc, il ressuscite lui-même. Ou Romains 8, verset 11, c'est l'Esprit qui a mis en rapport avec la résurrection, l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, etc. Donc, c'est vraiment Dieu qui intervient, et parce que Jésus est Dieu, lui-même aussi contribue, participe à sa résurrection. Autre chose que nous savons encore, on sait plein de choses. On sait que la résurrection de Jésus est définitive. Romains 6, verset 9, Paul dit, sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est définitif. Et ça, c'est la grande différence avec cette résurrection-là, celle de Christ, et toutes les autres résurrections qui ont lieu jusque-là. Tous ceux qui sont ressuscités sont morts à nouveau, mais pour Christ, c'est différent. Il ne meurt plus. On sait qu'il y a une continuité entre son corps physique qu'il avait quand il était sur cette terre et le corps ressuscité, Luc 24, verset 39. Jésus lui-même dit, voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Donc Jésus n'est pas un simple esprit, Il est vraiment incarné. Alors, quel genre d'incarnation? Ici, dans le cadre de la résurrection, ça c'est un petit peu plus difficile, mais il se distingue bien d'un être purement spirituel. C'est plus que cela. Il y a vraiment un nouveau corps. Vraiment. C'est extraordinaire. Et ce corps est qualifié par ailleurs, et là je reviens à Paul, en Corinthiens 15 encore une fois, verset 44 cette fois-ci, où Paul parlant de la résurrection dit « Ce mes corps naturel, nous, on ressuscite corps spirituel. » Ce qui veut dire que c'est un corps qui n'a pas la même consistance que notre corps d'aujourd'hui. Et c'est heureux. C'est un corps où il y aura moins de difficultés qu'aujourd'hui. Surtout quand parfois on approche, quand les années s'ajoutent aux années, le corps des fois ne veut plus trop suivre. Ben ça c'est quelque chose que nous ne vivrons plus. La dégradation du corps, par exemple, c'est quelque chose qui ne fait plus partie de la réalité d'un corps ressuscité. Et puis ce corps ressuscité a des capacités particulières que moi je n'ai pas. Par exemple, Jean 20, verset 26, là, c'est Jésus qui se manifeste auprès de ses disciples. Ben, le texte nous précise, Jean nous précise que les portes sont fermées et que Jésus apparaît à l'intérieur d'une pièce fermée. On pourrait dire d'une certaine manière, alors je ne sais pas si c'est ça qui s'est passé, mais le corps passe par les murs. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Toujours est-il que la pièce est fermée et Jésus apparaît au milieu des disciples sans être passé par la porte pour rentrer dans la pièce, comme moi je dois le faire quand je vais venir ici. Alors, qu'est-ce que ça implique tout cela? Franchement, là, on peut rêver, hein. Mais, en tout cas, je me réjouis pour ce corps-là. Et je me réjouis d'être associé à la résurrection de Christ. Alors, l'attestation de ces faits. Alors, si je pose la question, est-ce que vous croyez à la résurrection? Probablement, vous allez me dire, oui, bien sûr, j'y crois. J'espère que vous direz ça, d'ailleurs. Mais même si vous avez quelques doutes, peut-être seriez-vous gêné d'exprimer ces doutes, parce que quand même, dans une église évangélique attachée à l'Écriture, douter de la résurrection, ça ne le fait pas. C'est un mauvais genre. Mais quand même, bien des hommes ont douté de la résurrection, et il fallait trouver des arguments, d'une certaine manière, pour quand même dire « oui, ce n'est pas si farfelu que ça ». Parce que le grand problème avec la résurrection, c'est que scientifiquement, ça ne se prouve pas. La résurrection ne fait pas partie de l'expérience humaine commune. La mort, oui, ça, il n'y a pas de problème. Tous les humains meurent, ça, c'est bien clair. Mais alors, la résurrection, alors ça, c'est une autre paire de manches. Il n'est pas de l'expérience humaine habituelle de voir des gens ressuscités. Moi, j'en ai jamais vu. Et bien d'autres non plus. Alors, Jésus nous dit quelque chose, enfin c'est plutôt un commentaire de Jean, qui dit, Jean 20, verset 9, on nous dit, des disciples, ils n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Au fond, nous dit Jean ici, la résurrection est conforme à l'écriture. Alors quand les gens du Nouveau Testament parlent de l'écriture, c'est bien sûr l'Ancien Testament, c'est pas la Bible complète telle que nous l'avons aujourd'hui, ça se comprend bien. Et on pourrait se poser la question, mais où est-ce que l'Ancien Testament annonce cette résurrection? Qu'est-ce qui rend la résurrection conforme à ce que Dieu avait déjà révélé auparavant? Alors, on peut citer plusieurs choses, et je vais être un petit peu rapide dans ce que je vais dire. Ben, par exemple, ben, c'est le fait qu'il y a déjà des résurrections dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas une nouveauté. Alors, pas comme Jésus, celle est unique, hein, mais d'autres résurrections, il y en a déjà. Élie qui ressuscite le fils de la veuve de Sarepta, un roi 18 à 17. Élisée qui ressuscite le fils de la Tsunamite, deux rois, chapitre 4. Et puis, un épisode un petit peu moins connu, c'est l'homme qui est jeté dans la tombe d'Élisée et qui revient lui aussi, deux rois, chapitre 13. Et puis, il y a des types de la résurrection. Des symboles de la résurrection. Et c'est Jésus lui-même qui nous en parle. Jonas, qui était 3 jours dans le ventre du poisson, pour Jésus est un type de la résurrection. Matthieu 12, versets 39 et 40. « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, c'est l'ensevelissement et puis, de nouveau, la vie qui va suivre. Et puis, il y a parfois, alors pas souvent, alors ça je le concède, ça arrive pas souvent, mais il y a parfois des annonces assez claires quand même de la résurrection. Daniel 12, verset 2. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Franchement, ce que Daniel nous dit là pourrait être dans le Nouveau Testament sans autre problème. Mais Daniel avait déjà entrevu. Remarquons d'ailleurs ici que tous vont ressusciter, hein, les uns pour la vie, les autres pour l'abjection. Mais tous ressuscitent. Mais il y a bien résurrection. Ou encore le psaume 16 que Pierre reprend à la prédication en Pentecôte où c'est David qui dit « Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts ». David aussi a cette aspiration que la mort n'est pas le dernier moment mais qu'il y a quelque chose après. Même si ce quelque chose après, dans l'Ancien Testament, n'est pas si clair que ça. Il y a une espèce de flou autour de ce qu'il y a après. Mais cette espérance est là et la certitude est là. La vie humaine ne se termine pas par la mort physique. Il y a quelque chose derrière. Ce n'est pas possible. Alors Jésus lui-même aussi enseigne à propos de la résurrection, sa propre résurrection. Et puis il opère des résurrections. Combien ? Que vous le savez. Alors, citez-moi l'une autre résurrection du Seigneur. Vous voyez Lazare, bien sûr, c'est peut-être le premier auquel on pense, oui. Puis il y en a d'autres. Donc Lazare, c'est Jean 11. Oui, le fils d'une veuve, oui, quelqu'un l'a dit. Luc 7, la veuve de Naïn. Et puis encore une autre fille. Jaïrus, bien sûr. Matthieu, tout à fait, voilà, Matthieu 9, etc. Donc Jésus lui-même opère 3 résurrections. Il enseigne donc à propos de la résurrection, Matthieu 16, verset 21 par exemple, « Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. » Et à partir de Matthieu 16, vous pouvez suivre le fil de l'histoire et des échanges entre Jésus et ses disciples jusqu'à la fin de l'évangile. Et vous verrez qu'à plusieurs reprises, Jésus réaffirme la même chose. Je vais à Jérusalem, je vais mourir, je vais être crucifié et je vais ressusciter. Les disciples étaient parfaitement informés de ce programme. Alors, ils n'avaient pas forcément envie que ce programme se réalise, pensant à la réaction de Pierre, hein, que Jésus doit reprendre. Mais Jésus leur a dit. Ils n'ont probablement pas compris grand-chose, mais ça a été dit. Et puis, et c'est probablement l'élément pour nous le plus important. Comment savons-nous que quelque chose s'est passé dans le passé ? Le témoignage, exactement. La seule manière de savoir que quelque chose s'est passé, que nous n'avons pas nous-mêmes observé, c'est parce que des témoins nous le rapportent. Alors ces témoins peuvent être des paroles humaines, écrites, des témoins par des pierres ou n'importe des choses qu'on retrouve, mais nous savons ce qui s'est passé parce que des témoins que nous jugeons crédibles nous le disent. Et beaucoup de choses que nous savons, en fait, sont simplement issues de témoignages. Nous y croyons parce que nous pensons que ceux qui en parlent sont crédibles pour une raison ou pour une autre. Et donc, si nous regardons en particulier dans les Actes, nous voyons que c'est hyper important pour le monde, ou la période qui a suivi tout de suite la résurrection du Seigneur, qu'il y ait des gens qui peuvent attester qu'il est vraiment revenu à la vie. Dès le début, acte 1, versets 21 et 22, lorsqu'il faut remplacer Judas, il y a des conditions à remplir. Il faut que ce soit quelqu'un qui était avec les disciples, donc qui a entendu Jésus, son enseignement, etc. Et puis, verset 22, il faut qu'il y en ait un avec nous, témoin de sa résurrection. Pour joindre le groupe des apôtres, il fallait avoir vu Christ ressuscité. La prédication de Pierre, acte 2, 32. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Je vous encourage un jour à prendre une concordance, où maintenant les outils électroniques font ça très vite et très bien, et de chercher le mot témoin ou témoigner dans les actes. Et regardez le nombre de fois où l'objet du témoignage est la résurrection. Le message fondamental des apôtres, c'était « Il est ressuscité ». Celui qui a été crucifié est ressuscité. Et c'est la bonne nouvelle. Il n'est pas resté dans le tombeau. Et nous sommes témoins de ces choses. Nous vous l'attestons, c'est vrai. Nous l'avons vu de nos yeux. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous l'avons vu. Et nous témoignons de cela. Vous pouvez nous mettre en prison, vous pouvez nous couper en rondelles. Bon, ce n'était pas dit comme ça. Mais nous restons sur notre point. Nous l'avons vu ressusciter et nous ne pouvons pas dire autre chose, sinon nous mentons. D'ailleurs, dans la suite, ils vont eux-mêmes opérer des résurrections. Donc, il y en a encore une fois trois. Les gens qui sortent, ça a été dit hier, des tombeaux, Matthieu 27, puis Tabitha et Eutychus aussi, donc dans les actes, une fois Pierre, une fois Paul, qui ressuscitent. Alors, peut-on par ailleurs prouver la résurrection ? Peut-on ? Pourquoi, si quelqu'un vous pose la question, alors prouver, c'est peut-être pas le terme qui convient là, si quelqu'un vous pose la question, pourquoi croyez-vous en la résurrection, alors que c'est tellement improbable à vue humaine, qu'est-ce que vous répondez ? Eh bien, pour ma part, je répondrai à la chose suivante, et j'ai déjà commencé à le dire. Eh bien, moi je crois à la résurrection parce que je crois que les disciples étaient des témoins crédibles. Et deux choses me rendent ces témoins crédibles, deux éléments me rendent ces éléments crédibles. Le premier élément, c'est parce qu'ils savent de quoi ils parlent, ils l'ont vu de son vivant. Ils ne le découvrent pas, la résurrection, contrairement à l'apôtre Paul, par exemple, qui s'est joint, qui est devenu apôtre, mais par un autre biais. Donc, les témoins le connaissent, ils savent de quoi ils parlent. Ça, c'est la première raison pourquoi je crois qu'ils sont crédibles. Et puis, il y a une deuxième raison qui me rend ces témoins crédibles, c'est parce qu'eux-mêmes n'y ont pas cru. Et c'est un des accents des évangiles que Marc 16, verset 11, par exemple, quand par exemple les femmes reviennent du tombeau et disent que le tombeau est vide, ou même qu'ils ont rencontré le Seigneur, le texte nous précise, ils ne les crurent pas. Marc 16, verset 11, verset 13 et 14, ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Les disciples ont du mal à être convaincus de la réalité de la résurrection, et ça me les rend crédibles. Ils ne sont pas crédules, ils ne sont pas naïfs, ils sont normaux. Et quelqu'un de normal, lorsqu'il voit un ressuscité, a quelques problèmes. Hésite, doute, a besoin d'être convaincu que c'est vraiment vrai. Et je me dis, ces disciples sont crédibles parce qu'ils sont comme moi, ils ont du mal à croire ce qui est incroyable. Mais ils en sont convaincus et ils sont prêts à donner leur vie parce qu'envers et contre tout, ils disent « Non, on l'a vraiment vu, on ne s'est pas trompé. » Et ça me convainc. Un deuxième élément que je mettrai dans la balance, c'est la vision du monde. Est-ce tellement étonnant que dans un monde créé par Dieu, avec tout son côté extraordinaire que nous constatons autour de nous, qu'un Dieu qui a fait cela, cette création-là, est-ce que ce Dieu-là ne serait pas capable de recréer un monde nouveau dont la résurrection fait partie ? dans ma vision du monde, tel que moi je vois ce monde, la résurrection fait sens. Parce que c'est un monde dans lequel il y a un créateur qui est à l'origine de tout, un Dieu souverain qui continue à diriger l'histoire, la destinée des humains. Et je ne vois pas pourquoi, quelle raison majeure, Dieu ne pourrait pas recréer un corps nouveau alors que je lui dois déjà mon corps actuel. Ça ne me choque pas. C'est cohérent dans ma vision du monde. Par contre, si vous avez une vision du monde athée, sans Dieu, une vision du monde matérialiste où n'existe que la matière et rien d'autre, la résurrection pose problème. Comment c'est possible? Si vous avez une vision du monde bouddhiste où on ne ressuscite pas, mais où on se réincarne X et une fois jusqu'à arriver à une peut-être une dissolution finale, la résurrection ne fait pas sens. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui va nous sortir de l'affaire, ce n'est pas de vivre plusieurs vies, mais c'est de vivre une vie dans laquelle nous sommes sauvés et d'être en attente d'un monde recréé, une nouvelle création, nouveaux cieux, nouvelle terre, dans laquelle nous vivrons avec des corps ressuscités. Pour moi, ça fait sens. Mais ça tombe bien, je ne suis pas athée, je ne suis pas bouddhiste, je suis chrétien, et la résurrection est absolument cohérente dans un monde chrétien, dans une vision du monde chrétienne, c'est-à-dire un monde qui n'existe pas de par lui-même, mais qui existe à cause d'un créateur, et un monde dont l'idéal n'est pas la disparition, la dissolution, mais un monde libéré de la puissance du péché, tel que nous le connaissons aujourd'hui. En tout cas, moi ça me va. Alors, il faudrait parler ici encore un moment du sens de la résurrection, je vais le faire très brièvement. Pour la personne de Jésus d'abord, pour lui, la résurrection signifie qu'il est vraiment celui qu'il a prétendu être. Il est Dieu. Il est le Fils éternel de Dieu qui revient à la vie. Romains 1, verset 4, « Déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. » Pour le monde, la résurrection signifie « un nouveau monde démarre ». La résurrection, c'est la première pierre d'un nouvel édifice que Dieu est en train de construire, d'un monde nouveau qui est à venir, mais dont les prémices sont déjà là. Pour nous, alors j'ai employé le mot prémisse, c'est exactement le terme que l'apôtre Paul emploie dans 1 Corinthiens 13, lorsqu'il parle de Christ, il dit « Maintenant Christ est ressuscité d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui sont décédés. » Ça veut dire en clair que un jour, nous serons comme lui il est maintenant, avec un corps ressuscité. C'est magnifique. La vie a déjà triomphé de la mort. La résurrection de Christ en est le début. Dernière chose que je dirais, pour nous, il y a quelque chose encore qui est lié à la résurrection, c'est aussi le mandat missionnaire. C'est le Christ ressuscité, Matthieu 28 et les passages parallèles, c'est le plus souvent Matthieu 28 qui est cité, mais il y a des passages parallèles un petit peu moins explicites. C'est le Christ ressuscité avant sa montée au ciel qui donne la mission à ses disciples de récolter les fruits de son œuvre, de les enseigner, de les baptiser et de faire des disciples jusqu'au moment où le Seigneur estimera que maintenant c'est accompli. La bonne nouvelle, le mandat de la bonne nouvelle est lié à la résurrection de Christ. C'est le Christ ressuscité qui envoie ses apôtres, ses envoyés dans le monde et nous en conséquence. Alors pour moi c'est une certaine importance parce que l'évangélisation n'est pas la commémoration du souvenir d'un mort. C'est un Christ ressuscité qui m'envoie en mission. Et je suis là non seulement pour dire il est mort pour les péchés des siens, mais il vit aujourd'hui. Il est Seigneur. Et si tu te convertis, ça veut dire il va être Seigneur de ta vie. Tu peux te réjouir que tes péchés sont pardonnés. Et c'est formidable. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de l'histoire. La vraie histoire commence maintenant. Parce que ce Christ qui est mort pour tes péchés, c'est ce même Christ qui est ressuscité, qui est vivant aujourd'hui. Et qu'à partir du moment où tu te tournes vers lui, tu vas servir. Et tu vas te soumettre à lui dans tous les aspects de ta vie. Il est Seigneur. Il est ressuscité. Et maintenant, nous marchons à sa suite. Nous n'avons pas un monument aux morts que nous commémorons, mais nous avons un Christ ressuscité que nous servons. D'ailleurs, cette dimension de service et d'attente vers quelque chose, nous le trouvons même dans la scène, vous vous rappelez, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, sa mort et sa résurrection nous ouvrent une perspective et qui pour nous l'espace du service. Un mot pour la montée au ciel et pour l'ascension du Seigneur et sa place à la droite du Père, donc c'est la deuxième étape. L'ascension se passe après 40 jours, nous dit-on, acte 1, verset 3. Il se montre aux disciples pendant 40 jours, et pourquoi 40 jours? Eh bien, probablement, ce chiffre 40 a un sens symbolique, c'est pas un hasard, pourquoi pas 38 ou 42, j'en sais rien, mais 40, probablement parce que dans l'écriture, 40 a, à cause de la valeur symbolique de 40, 40 est le temps de l'épreuve pour faire ses preuves. Il fallait 40 jours, symboliquement, pour éprouver, prouver la réalité de la résurrection du Seigneur. Et une fois cette résurrection prouvée, il peut aller vers le Père et les disciples le voient monter au ciel. Ce temps correspond pour nous à l'absence de Jésus sur terre, son humanité dans le ciel et son règne. Aujourd'hui, Christ est à la droite de Dieu et exerce l'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier acte d'autorité du Seigneur a été, 10 jours après, c'est d'envoyer le Saint-Esprit. Il a promis à ses disciples, dans son discours dans la chambre haute, dans Jean 14 à 16, plusieurs fois ça revient, d'envoyer l'Esprit quand il sera parti, et bien il le fait. Et c'est la Pentecôte où l'Esprit est donné. Donc c'est Jean 16, verset 7, « Je m'en vais, donc parle de l'Esprit, et je vous l'enverrai, le Seigneur l'a fait. » Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu agit particulièrement dans ceux qui sont les siens. Autre manière d'exercer l'autorité du Seigneur, il est roi, il règne aujourd'hui. Pierre nous dit, 1 Pierre 3, verset 22, quand il parle de la résurrection, il dit « La résurrection de Jésus-Christ qui, montée au ciel, est à la droite de Dieu, à qui les anges, les pouvoirs, les puissances ont été soumis. » Paul dira la même chose dans 1 Corinthiens 15. « Il faut qu'il règne jusqu'au verset 25. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Nous vivons aujourd'hui le temps de conquête du Seigneur qui règne en amenant des âmes captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Et ça se fait par l'Église. Jésus est absent, il est au ciel, mais il est présent sur terre par son Esprit dans les siens. Et l'endroit par excellence où règne Jésus-Christ, c'est son peuple. Je ne dis pas qu'il ne règne pas ailleurs, mais particulièrement dans son peuple. Nous sommes son royaume, nous sommes le cœur de son royaume. Et n'importe qui rentre dans une église avec des gens, une église de professants avec des gens sauvés, devrait pouvoir dire, dans ce groupe humain, c'est évident que Christ règne. sur ces gens-là, de cette communauté, s'exerce une autorité surnaturelle qui est celle de Jésus-Christ dans leur cœur. Et c'est ce qui fonde leur unité, c'est ce qui fonde leur action, c'est ce qui fonde leur éclat, leur beauté et leur marche dans ce monde. Ce sont des gens, des hommes, des femmes sur qui Christ règne. En attendant que d'autres découvrent la même chose. Et puis, dernier élément que je citerai, ce que Christ fait aujourd'hui au ciel, il nous envoie l'Esprit, il règne, et puis il exerce un autre ministère encore à la droite du Père, c'est le ministère de prêtre. Il intercède pour nous. 1 Jean 2, verset 1, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Romains 8, verset 13, verset 34, cette énumération de Paul, où il pose un tas de questions qui pourraient nous ébranler, il dit « Qui les condamnera ?» donc parlant de nous. « Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Et ça c'est magnifique. Bien sûr, nous sommes des serviteurs de Dieu, tous, toutes. Mais nous sommes des serviteurs faillibles, pécheurs. Et nous avons besoin, toujours à nouveau, du pardon de Dieu, du pardon paternel de Dieu. Et que le fait que Christ fasse valoir son sacrifice auprès du Père pour notre pardon. Nous ne devrions jamais cultiver la mauvaise conscience. C'est absolument idiot de notre part. Nous avons un avocat. Nous n'avons pas besoin de nous lamenter, de traîner en prison, de traîner notre culpabilité. Christ est notre avocat auprès du Père. Et le Père nous pardonne à cause du Fils, de l'œuvre parfaite, absolument parfaite de Jésus-Christ. N'importe ce que nous avons sur la conscience, le chemin pour nous en libérer est simplement la confession, la repentance. Et nous retrouvons notre joie de vivre, notre joie de servir, notre sourire lorsque nous sommes en la présence du Seigneur ou lorsque simplement nous sommes entre nous ou lorsque nous sommes avec d'autres. Les chrétiens devraient être des gens qui ont toujours le sourire de celui qui a la conscience libre, qui est pardonné, qui sait que pour lui, les choses sont réglées. Et on se réjouit de ce que les choses soient réglées. Bon, moi, j'ai parfois un peu de mal, je dois vous l'avouer. Parfois, il y a un endroit de mon anatomie qui est un petit peu raide là derrière. Et je dois malheureusement confesser que j'ai la nuque parfois un petit peu raide. Mais quelle joie d'être pardonné. Bien sûr, parfois, il faut mettre des choses en ordre, mais ça fait partie de la repentance. Alors, l'incitation pour la mission. Eh bien, il me semble que le fait que Christ règne nous donne à la fois la puissance pour la mission par le Saint-Esprit. Nous pouvons nous rappeler, quand nous témoignons de Christ, ce n'est pas nous qui convertissons les gens, c'est l'œuvre de l'Esprit dans les cœurs. Et nous pouvons faire confiance au Seigneur. Il règne, il connaît les cœurs et son esprit est tout à fait capable d'appuyer notre témoignage, même s'il est maladroit, même si on ne trouve pas tout à fait les mots justes, même si après on se dit « Oh mince, je n'ai pas dit ça, j'aurais encore lui dire ça et ça. Ah ben ça aussi j'aurais dû préciser. Combien de fois je me suis senti maladroit dans mon témoignage. » Mais ce n'est pas grave. Le Saint-Esprit fait le travail dans les cœurs quand même. Oh, je ne dis pas ça comme une oreiller de paresse, ce n'est pas ça. Bien sûr, on essaie de bien faire. Vous essayez de toute façon de bien faire. Mais c'est le Saint-Esprit qui le fait dans les cœurs. La mission a du sens parce que son efficacité est l'efficacité du Saint-Esprit dans les cœurs. Nous pouvons y aller. Le Seigneur confirme dans les cœurs notre témoignage. Et au fond, la mission doit viser la glorification du Fils. Dernier point, c'est la manifestation en gloire du Seigneur. Alors, nous parlons, moi aussi d'ailleurs, nous parlons couramment du retour du Seigneur, c'est une expression que j'entends souvent, hein. Mais là encore une fois, nous sommes un petit peu en décalage par rapport à l'Écriture. Alors, ce n'est pas que l'Écriture n'emploie jamais cette expression, on la trouve l'une et l'autre fois, mais ce n'est pas le vocabulaire le plus fréquent. Et d'ailleurs, c'est intéressant, l'Écriture a un vocabulaire assez varié pour parler de cet événement que nous attendons, la manifestation en gloire du Seigneur. L'Écriture parle de parousie, littéralement de la présence du Seigneur. Alors, le repère de cette parousie, c'est l'empereur qui rentre dans une ville. Hein. On parle de la parousie d'un empereur ou d'un haut personnage. Donc, voilà, on emploie le même mot pour parler du Seigneur. Parfois de la venue, tout simplement, ou de venir à nouveau. Jean 14, verset 3. Parfois, on parle de l'épiphanie du Seigneur. C'est le fait qu'il apparaît. Alors, ça, c'est très joli. Le mot épiphanie en grec est utilisé pour le soleil qui se lève. Quand vous regardez un lever de soleil le matin, vous pouvez vous dire, bah tiens, c'est l'épiphanie du soleil. Alors, pour le Seigneur, c'est la même chose. Lorsqu'il viendra dans sa gloire, ce sera l'épiphanie du Seigneur. Ça, c'est extraordinaire. Il y a parfois même une conjonction des deux termes. L'épiphanie de la parousie, c'est absolument extraordinaire. On trouve ça dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Ou encore, parfois, son apocalypse. La révélation du Seigneur, la manifestation du Seigneur, 1 Corinthiens 1, verset 7. Que peut-on dire de plus? Quel genre d'événement sera-ce? Ce sera un événement évident pour tout le monde. La première venue du Seigneur était en Palestine, pour relativement un petit nombre de personnes. Mais lorsque le Seigneur viendra en gloire, ce sera pour tout le monde. Tout le monde le verra. On ne pourra pas échapper à cet événement. Vous n'aurez pas besoin d'Internet, vous n'aurez pas besoin de Twitter, de Facebook, de je ne sais pas quoi encore. Vous n'avez pas besoin de regarder des images sur Instagram ou autre chose. En direct, pour tout le monde, on n'y échappe pas. Apocalypse 1, verset 7, « Il vient dans les nuées, tout homme le verra. » Ce serait glorieux. Trompette, etc. 1 Thessaloniciens. Et puis surtout, ce sera un événement qui sera soudain. Ça ne sera pas une manifestation progressive. Ça ne mettra pas 3 mois à ce que tout le monde l'a vu. L'Écriture insiste, c'est d'un coup, il apparaîtra. Rapidement. C'est pour ça qu'il faut veiller, d'où l'exhortation du Seigneur à plusieurs reprises de veiller parce que ce retour se fera rapidement et même, nous dit-on, il est proche. Alors ça, c'est toute une discussion en soi, cette proximité du retour, mais peut-être vu l'heure qu'il est, je n'entrerai plus dans ce débat. Quelle est la chose importante pour nous dans cette perspective de la manifestation glorieuse du Seigneur? C'est d'être prêt. Toujours prêt. Alors ceux qui sont scouts en savent quelque chose. Au fond, nous ne savons pas quand, mais nous savons que ça sera radical. C'est un événement radical et totalisateur qui va tout, absolument tout concerner. Et la chose la plus importante à faire, c'est d'être prêt pour ce moment-là. Au fond, pratiquement, ça veut dire être maintenant, je vous parle, être prêt. Parce que nous ne savons pas quel va être le délai. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ces moments-là? Quelles sont les conséquences de son retour? Alors, je sais bien qu'il y a toutes sortes de schémas eschatologiques, alors je ne vais pas du tout me perdre dans ces différents schémas. Je cite simplement 3 choses et je vais simplement les nommer. 3 choses sont concomitantes d'une manière ou d'une autre. Alors, selon votre schéma, ça sera un petit peu différent, mais globalement, ces 3 choses, on retrouve dans tous les schémas eschatologiques. C'est la résurrection, notre résurrection cette fois-ci. Lorsque le Seigneur se manifestera en gloire, nous serons associés à cela par la résurrection de notre corps. Philippiens 3, versets 20 et 21, par exemple. La deuxième chose qui est associée à cette manifestation en gloire du Seigneur, c'est le jugement. Et pour certains, ce jugement va signifier les peines éternelles. Malheureusement, c'est une réalité terrible et tragique. Et puis la troisième chose qu'on peut citer ici, c'est la plénitude du règne. Ce règne de Christ qui est aujourd'hui contesté sera alors manifesté et incontestable. Personne n'échappera au fait de reconnaître que Jésus est Seigneur. Les uns vont le dire avec joie, dans la louange. Une joie indescriptible. Les autres vont le dire dans les pleurs, les grincements de dents, avec des remords terribles, sans fin. C'est une horreur. C'est une horreur. Que le Seigneur nous préserve de cela, et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes préservés de cela. Je laisse le dernier mot à John Stott, j'ai déjà cité l'une et l'autre fois, qui nous rappelle que l'élément de la manifestation en gloire du Seigneur implique aussi pour nous l'urgence de la mission. Nous ne savons pas combien de temps nous avons encore pour annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, nous devons en profiter tant qu'il est temps. Et je cite John Stott, « Il me semble que pour son inspiration et sa direction, l'Église devrait sans cesse revenir à cette base christologique de la mission. Oui ou non, Jésus suffit-il pleinement pour nous ? Repentons-nous de notre défaitisme, surtout en Occident, de l'absence ou de la modestie de nos objectifs, de notre fâcheuse tendance à penser que même si elle croit ailleurs, l'Église ne peut plus se développer dans nos pays. Quelle sornette ! Si seulement nous pouvions avoir une vision renouvelée de Jésus-Christ, incarné, crucifié, ressuscité, glorifié, répandant son esprit et revenant bientôt. Alors, nous aurions un objectif clair, une impulsion décisive, le courage, l'autorité, la force et la passion pour évangéliser notre monde d'aujourd'hui. Que dans sa grâce, le Seigneur renouvelle en nous la passion de servir un Christ ressuscité, qui règne et qui, bientôt, manifestera sa venue en gloire. Amen.